Quand l'île-dieu mettait la mer en bois.
Quand l'île-dieu mettait la mer en boîte.
Quand l'île-dieu mettait la mer en boîte.
Épisode 4, des confiseries aux usines. Dans l'épisode précédent, on a dit l'abondance de sardines dans les parages de la côte vendéenne, ce qui a favorisé l'implantation de conserveries de poissons et relancé l'économie des petits ports du littoral et des îles.
Et ces quelques chiffres en témoignent. En 1870, la pêche à la sardine rassemble, sur le littoral vendéen, plus de 600 bateaux et 3500 marins pêcheurs, soit presque l'équivalent de tous les ports bretons réunis. Cette pêche alimente la quasi-totalité des 27 usines installées à proximité des zones de pêche.
À l'île-dieu, où la sardine abonde à la belle saison, la campagne sardinière fait jouer pleinement son rôle de port de relâche à Port-Joinville, qui accueille des équipages extérieurs tout au long de la saison. On y compte certains jours jusqu'à 400 bateaux bretons.
Cette affluence n'a pas échappé aux entrepreneurs.
C'est ça. La première confiserie de poissons de l'île-dieu, l'usine de la Couronne, ouvre ses portes en 1862 à l'initiative de deux négociants et armateurs rochelais, messieurs Eugène Mariochaud de Bonnemort et Frédéric Becker, son beau-frère et associé.
Située près du port, sur le quai de la Chapelle, elle est aménagée dans un espace exigu, tout petit, entre deux maisons d'habitation, sur l'emplacement d'une ancienne demeure appartenant à Madame Mercier, veuve d'un maître au cabotage. L'expérience sera de courte durée. Malgré le recours au service d'un conserveur nantais, M. Benoît, l'usine de la Couronne cesse son activité après 4 années d'existence, en 1866.
Aussitôt mise en vente, elle est rachetée 6 mois plus tard par un ferblantier de La Rochelle, Frédéric Laveau. Monsieur Laveau décède en 1870. Madame Laveau et sa fille Eugénie essaient d'assurer la continuité de l'entreprise en proie à des difficultés financières. En 1878, Madame Laveau confie la gestion de la confiserie à son comptable Frédéric Wilkens, qu'elle épousera d'ailleurs 1 an plus tard. Leur inexpérience provoquera rapidement la faillite et la fermeture de l'usine en 1879.
Cet emplacement, désaffecté, abritera à partir de 1896 la criée municipale, appelée l'Encan. Parallèlement, deux notables locaux se lancent également dans l'aventure de la confiserie de poissons. Monsieur Boyer, négociant à Port-Joinville, fonde sa confiserie à l'extrémité ouest du quai de la Chapelle en 1868. Puis c'est au tour de Monsieur Prudent Bernard, capitaine au long cours, qui installe quant à lui son usine de la Fraternité dans le quartier des Bossilles en 1877, en bord de mer, sur l'emplacement de l'ancienne usine pour le traitement chimique des soudes brutes de charbon de Varec des entreprises Courtade. Rachetée en 1889 par la maison Amieux Frères, conserveur à Nantes, elle sera agrandie et prendra le nom d'usine Amieux.
Très vite, c'est le grand jeu de qui rachète qui, comme souvent au démarrage de nouvelles industries encore aujourd'hui. On observe que 3 grands noms de la conserverie nantaise s'implantent à l'île-dieu en rachetant les premières confiseries au cœur de la zone d'approvisionnement locale. Il s'agit de Bouvet-Flon, Saupiquet et Amieux.
Oui, en 1875, M. Flon, ferblantier à Nantes, gère les intérêts de la confiserie Boyer sur l'île-dieu. Quand la famille Bouvet fusionne avec l'entreprise Flon, c'est Bouvet-Flon qui rachète Boyer en 1877. Ce sera l'établissement le plus pérenne de l'île, où la marque sera présente jusqu'en 1970, soit 93 ans.
Selon les sources d'information, Saupiquet s'implante entre 1879 et 1889 sur l'île, quai de la Chapelle, dans des locaux vétustes et exigus. L'entreprise déménagera place du Puy en 1925 dans des locaux neufs. L'usine Saupiquet de l'île-dieu fermera ses portes en 1949.
Et dans le quartier des Bossilles, c'est Amieux Frères, avec sa célèbre devise « Toujours Amieux », qui rachète l'usine de la Fraternité en 1889, créée par Prudent Bernard 10 ans plus tôt, et qui s'y maintiendra jusqu'en 1970, soit 81 ans.
Les premières conserveries sont souvent des bâtisses vétustes et plutôt inadaptées.
Nous disposons d'assez peu de renseignements concernant les bâtiments occupés par Bouvet-Flon et Saupiquet sur le quai de la Chapelle, au début de leur implantation sur l'île. Mais le croisement d'informations recueillies dans plusieurs documents contemporains indique que ces établissements bien que succursale de grands industriels nantais, ne se distingue pas architecturalement des anciennes confiseries. Ce sont toujours d'anciennes maisons d'habitation, disposant de hangars ou d'appentis, transformées en lieux de production.
Et tout se passe très bien ? Tout le monde est content sur l'île-Dieu ?
Il y a le revers de la médaille, comme parfois, ça arrive. Malgré des retombées économiques indéniables, l'implantation des confiseries de poissons dans un quartier populaire de Port-Joinville suscite des débats virulents.
Il faut savoir qu'au départ, les espaces qui abritent ces premières confiseries sont très rudimentaires. Les premiers établissements s'installent en effet sur le quai de la Chapelle, choisis pour sa proximité immédiate avec le port et notamment avec la cale de la mer Rastouex, où accostent généralement les sardiniers, appelés aussi familièrement cale aux bretons, tant le nom de marin breton dans le port est important pendant la saison sardinière. Cette proximité limite les transports effectués en charrette et préserve la qualité de l'approvisionnement.
Le quai ouvre par ailleurs sur une baie où chaque confiserie peut à la fois prélever, à l'aide d'une pompe, l'eau de mer nécessaire au lavage des poissons et rejeter ses eaux usées. Ce sont de grandes bâtisses, entourées de hangars donnant sur une cour centrale réduite, où le poisson est mis à sécher à l'air libre. Leur promiscuité, avec des bâtiments résidentiels, occasionne des désagréments contre lesquels les habitants du quartier protestent de manière véhémente.
Le maire reçoit des plaintes nombreuses et récurrentes de la part du voisinage, dénonçant des nuisances liées aux fumées et aux fortes odeurs d'huile de friture qui envahissent les habitations, ainsi qu'au traitement négligé des déchets de poissons que les conserveries génèrent.
Ah oui, ça devait sentir assez fort. Et il devait y avoir beaucoup de bruit, dû aux charrettes, aux voix des gens qui travaillent, à l'eau, au matériel. On imagine tout ça. Et alors, on peut parler de l'affaire des cheminées ?
La fameuse, oui. L'enquête publique lancée en vue de l'installation de l'usine Bernard, ouverte en 1877, et notamment les préconisations de la préfecture pour autoriser l'ouverture d'une troisième confiserie dans le quartier ouest de Port-Joinville. Celle-ci déclenche des plaintes administratives contre les confiseries Lavaux et Flon, qui ne respectent aucune des contraintes de salubrité publique imposées à leurs concurrents.
L'arrêté d'ouverture, en date du 3 mai 1877, stipule que la cheminée de l'usine devra s'élever à 20 mètres au-dessus du sol pour éviter la propagation des fumées grasses dans les maisons d'habitation alentour.
L'arrêté impose également le creusement et la construction d'aqueducs couverts entre le bâtiment et la mer pour l'écoulement des eaux souillées.
À la fin de l'été 1877, et suite à l'ouverture de la fabrique de conserve de poissons de M. Bernard, le maire de l'Île-Dieu et son conseil municipal alertent la sous-préfecture des Sables-d'Olonne.
Dans un quartier populeux de Port-Joinville se trouvent deux autres usines, Lavaux et Flon. Ces fabriques ont de petites cheminées de 2 mètres environ de hauteur. Il s'ensuit que les voisins sont très incommodés par la fumée et les vapeurs d'huile et des plaintes nombreuses m'ont été portées. La population entière de Port-Joinville réclame depuis longtemps contre cet état de choses.
Le 1er septembre 1877, le sous-préfet répond au maire et l'invite, au vu des nombreuses plaintes qui lui ont été adressées au sujet de ces établissements, à convoquer à la mairie les directeurs des usines pour leur faire part du fait que la tenue de leur établissement donne lieu à des plaintes trop fréquentes et trop multipliées pour que l'administration ne soit pas forcée de prendre à leur égard les mesures même les plus sévères s'ils ne se conforment pas exactement aux arrêtés préfectoraux qui les autorisent.
Et ça hausse le ton. Le sous-préfet adresse au maire la copie d'un courrier signé du préfet de la Vendée qui donne des instructions précises. Vous voudrez bien mettre les propriétaires de ces usines en demeure de se conformer aux arrêtés d'autorisation de leurs établissements dans un délai d'un mois ou plus tard, sous peine de quoi les autorisations accordées seront retirées.
Le 16 septembre 1877, la réponse du maire de l'Île-Dieu est un peu cinglante. J'ai l'honneur de vous accuser réception des instructions que vous m'avez adressées au sujet des fabriques de conserves alimentaires. Je dois vous faire remarquer, monsieur le préfet, que ce que le conseil demande dans sa délibération d'août, et je suis de son avis, c'est que le règlement de l'usine Flon en date du 14 mai 1868 et celui de l'usine Lavaux en date du 28 juin 1862 soient modifiés en ce qui concerne les hauteurs des cheminées. que ses hauteurs soient fixées à 20 mètres au-dessus du sol, ainsi que cela vient d'être fixé récemment pour l'usine Bernard, par l'arrêté du 3 mai 1877. Nous aimerions en outre que, pour les aqueducs couverts destinés à conduire les eaux de lavage à la mer, la directive soit donnée aux fabricants ainsi que la côte du radier, et que les travaux soient surveillés. Je vous prie, monsieur le préfet, de vouloir bien faire modifier les arrêtés ci-dessus désignés, puisqu'il est reconnu que les hauteurs des cheminées à 3 mètres demandées par les arrêtés sont complètement insuffisantes, puisque les maisons qui avoisinent ces fabriques sont pleines de fumée et de vapeur d'huile. L'année dernière, la municipalité de Saint-Gilles s'est trouvée dans un cas analogue, et par le nouveau règlement, les cheminées d'usine ont été élevées à 20 mètres de hauteur. Je suis, avec respect, monsieur le préfet, votre obéissant serviteur.
Le maire de l'Île-Dieu obtiendra finalement gain de cause. Enfin, un peu partout sur la côte, l'implantation des premières confiseries donne lieu à des plaintes similaires de la part des riverains. Divers arrêtés préfectoraux viendront peu à peu y mettre bon ordre.
Et quand les industriels nantais, Bouvet-Flon, Sopiquet, Amieux s'installent, se lancent-ils dans de gros investissements pour soutenir la production sur l'Île-Dieu ?
Pas vraiment. Ils choisissent Port-Joinville en raison de la proximité de l'approvisionnement en poissons et de la présence sur place d'une main-d'œuvre importante et qualifiée. Mais dans un premier temps, ils ne réalisent pas de transformations importantes et onéreuses des entreprises et des locaux qu'ils reprennent. Ce n'est qu'au tournant du 19e siècle vers le 20e que ces conserveries seront transformées en véritables usines. Elles deviendront un vrai marqueur de la silhouette de Port-Joinville.
On se retrouve au prochain épisode pour la suite.
Avec les contributions de
recherche, documentation, texte, Pascal Cariou,
voix, Sylvie Montlahuc
et Clément Bertrand.
Adaptation, réalisation, Maya Tubiana-Perro.
Musique, Clément Bertrand.
Design sonore et mixage, Philippe Turbet.
Moyens techniques, Neptune FM. Une production rendue possible par les services culturels et patrimoine de la municipalité de l'Île-Dieu. Produit par Aerials. Réalisé 100% à l'Île-Dieu.